Salut Marc, salut Smart et bienvenue dans ce nouvel épisode de Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Aujourd'hui, nous analysons ensemble le dernier Monday Night Raw avant la chambre d'élimination. Et pour m'accompagner, j'ai avec moi l'ami Chris. Salut Chris.
Salut Yerem, salut peuple de Catch Up. Bienvenue à Monday Night Raw, bienvenue dans la review Catch Up qu'il vous faut.
Ouais, qu'il nous faut et ce qu'il nous fallait, c'est un bon build-up pour Elimination Chamber et WrestleMania, parce que tout voilà. Ça va arriver très très vite.
Ah bah, vitesse de la lumière, hein, Elimination Chamber, là on a eu à peine le temps de se remettre de Super Showdown qu'on y est déjà dimanche prochain.
Ouais, du coup, bah, Monday Night Raw, on a plutôt réussi l'exercice factuellement, puisqu'on a carrément ouvert le show avec Brock Lesnar et Paul, accompagné de Paul Heyman. Heyman qui nous a fait alors un petit exercice différent d'habitude. Je sais pas si toi ça t'a surpris aussi, mais habituellement Paul Heyman, qu'est-ce qu'il fait? Il met assez over le challenger, sauf que là pour lui c'est une honte, ce Drew McIntyre qui va partager la scène du main event avec Brock Lesnar. L'Écossais n'en est pas digne. Et ça ne plaît pas justement à Drew McIntyre, qui arrive pour interrompre et qui carrément balance une énorme claymore dans la tronche de Brock Lesnar, qui faisait mine de partir en fait. Hein. Brock Lesnar est plutôt pas mal vendu. On voit un petit peu de... presque de la peur dans les yeux de Brock Lesnar. Hein. On sent qu'il a encore du mal à digérer le...
De l'inquiétude, en tout cas. De l'inquiétude.
Voilà, de l'inquiétude. C'est d'être à les 7 étapes avant la et peur. Ouais. De l'inquiétude, étape numéro 3. D'abord la surprise, Royal Rumble.
Voilà.
L'incompréhension. Et maintenant l'inquiétude. Et il a voulu faire le filou, sauf qu'il a été cueilli par une grosse claymore. Et Drew McIntyre, vu qu'il est chaud, il s'est pas arrêté là, puisque Brock Lesnar, quand il s'est trouvé sous le petit entrou, il s'en est bouffé deux autres. Donc, distribution de claymore, j'ai l'impression qu'on trouve plus facilement des claymores que du gel hydroalcoolique. Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, je suis assez d'accord, ouais, il y a un peu pénurie à ce niveau-là, mais la claymore, par contre, fait foison. Donc, écoute, c'était un excellent segment, j'ai kiffé de ouf. J'ai trouvé ça excellent de bout en bout. Donc voilà, alors là je vais être dithyrambique, hein, mais clairement, voilà, j'ai adoré Drew, j'ai aimé justement, voilà, si tu veux, un petit peu cet écart là sur la promo du Paul Heyman, comme tu l'as bien signalé, quoi, où d'habitude effectivement il met over le challenger, et pour le coup là, c'était pas ça. On sent la peur aussi qui monte chez Paul Heyman, on la sent.
Ouais, obligé d'en venir à l'insulte. Hein.
Ouais, voilà. Quand on en est là, ça veut dire que Paul Heyman pressent un danger pour sa bête. Et ça, c'est tout bon, quoi. Franchement, l'Écossais, il est au taquet. Je trouve que là, on est face, pour le coup, un bon build pour WrestleMania et que c'est un match que j'ai envie de voir, que t'as envie de voir, que le peuple de catch-up a envie de voir et que tout le WWE Universe a envie de voir. Et franchement, s'il déconne pas, ils tiennent un match of the year.
Ouais, tu viens de leur mettre la pression, là.
Ah ouais, mais on est comme ça, nous, à catch.
Un match de championnat, pas besoin d'attendre WrestleMania pour l'avoir. C'est la division tag team, donc le championnat par équipe à Monday Night Raw.
Excuse-moi, je suis enthousiaste, mais quel opener ce Raw, quoi. Brock Lesnar, Drew, et derrière, on enchaîne avec un Raw Tag Team Championship, franchement, ça envoie du pâté cette semaine.
Bon, vous la sentez là, la bonne note de Chris.
Oh oui.
Elle arrive.
Oh oui.
C'est pas une prédiction, c'est un spoiler. Bon, laisse-moi quand même dérouler l'épisode avant d'arriver au top et au flop.
Ouais, je vais essayer.
Retenez-le. Cet homme ne sait plus ce qu'il fait.
Il faut me calmer.
Allez. Il faut prendre vos petites pilules là, monsieur. les Street Profits ont leur dernière chance. Hein. C'est leur dernière occasion.
Now or never.
Le titre de championnat par équipe des mains de Murphy et de Seth Rollins. Il y avait AOP hein, qui était ringside, donc voilà, le nouveau messie là, de Monday Night Raw ne se déplace jamais sans sa corde de fidèle.
Voilà, sans sa garde rapprochée.
On a du brawl, ça se balance dans les barricades, ça dive dans tous les sens. Le match est très court, pour être honnête, à un moment... Voilà, il était un peu tard, je me suis dit je vais avancer le début et je me suis retrouvé, on était déjà à la fin du match. Ça a duré 7 minutes 50. Hein.
Et ouais, moi, ouais.
7 minutes 50, du coup, je suis reparti en arrière pour regarder le match, je suis sur le cours. Ça, on arrive rapidement à l'intervention du Canadien, le roi du pancake, Kevin Owens, qui passe un stunner sur Seth Rollins. Entre-temps, Eopis sont fait virer du match. Montez Ford place le Frog Splash pour la victoire. On a donc des nouveaux champions par équipe de Monday Night Raw. Les Street Profits, ça, évidemment, ça ne plaira pas à Seth Rollins qui demande une clause de rematch. Enfin, il n'y a plus de clause, mais qui demande en tout cas un rematch qui sera officialisé à Elimination Chamber. Bon, est-ce qu'on prie pour que la NXT Curse, comme on l'a appelé dans notre Discord, ne frappe pas les Street Profits?
Ah là 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 là, toute la question est là. Ça, c'est sûr, quoi. Est-ce qu'ils vont vivre le syndrome de NXT, des vite champions et puis vite oubliés?
Ouais, les AOP, les Viking Raiders, ils sont... ouais. La liste est longue hein, de ces champions. Ah, ouais, des ouais, mecs qui sont arrivés de NXT, ils étaient chauds.
Les Revival, enfin bref, il y en a eu un paquet. Hein. Donc oui, effectivement, on a le droit de craindre cela pour eux, quoi. Après, ils sont quand même construits depuis pas mal de temps. Ils ont mis du temps avant d'arriver dans le ring. Ils avaient des segments backstage. Ils font de la vidéo, pas mal de déconnades autour d'eux. D'ailleurs, je m'en plaignais moi-même parce que je trouvais ça assez long avant qu'ils arrivent dans le ring. Là, depuis Super Showdown, ils sont lancés là sur la title picture des titres par équipe. Ils ont fait un match. C'était moyen à Super Showdown, mais c'était lié pas mal au contexte du pay-per-view. Là, écoute, ça a duré 7 minutes, ça a été très rapide et pourtant j'ai trouvé que c'était un bon match. Je fais partie de ceux qui vont être confiants sur cette prise de titre. Je suis vachement content qu'il y ait un rematch à Elimination Chamber. Parce ouais. que je pense qu'ils vont avoir un peu plus de temps et il y a peut-être moyen de construire quelque chose là-dessus. Donc je suis très content. Je félicite Seth Rollins pour son sailing du stunner de Kevin Owens. Bon, le KO, il est arrivé un peu out of nowhere, mais ça pouvait quand même plus ou moins s'anticiper. Moi je trouve ça très bien, voilà. Il faut savoir raison garder, effectivement. Est-ce qu'il n'y aura pas ce syndrome NXT qui va les frapper? On verra bien, mais en tout cas ils étaient en feu. Montez Ford à la fin du match, mais c'était énorme quoi. Le mec en fait c'est un espèce de symbiose entre l'Ultimate Warrior, Batista, entre son truc, comment il tient les cordes, comment il court, c'est un fou furieux Montez Ford quoi. Et j'ai trouvé Dawkins au niveau, donc moi écoute, j'ai fait partie de ceux qui se sont levés bien haut, qui ont levé les poings bien haut. J'étais très, très content de la victoire des Street Profits.
Ouais, moi aussi en soi. Je suis un peu presque frustré de ne pas avoir eu un vrai gros match, pourquoi pas Elimination Chamber. Mais là où je te rejoins, c'est
il y en aura
que...
un.
Ouais, il y en aura... Oui, c'est ça. Ouais, mais bon, j'allais sortir. Donc c'est un petit peu frustrant. Mais là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, je me dis... Et bon, à chaque fois, c'est aussi... Voilà, On veut y croire qu'ils ont un espèce de total package, enfin un package un peu plus entertainment que tous ceux qu'on a cités précédemment, qui peut faire que les mecs vont être là pour durer, quoi, et qui vont pas lâcher les ceintures ou alors les défendre, enfin retomber à Jobberland comme ça s'était retrouvé là, les Viking Raiders notamment.
Voilà, tout à fait. Après, donc, moi, je boude pas mon plaisir parce que. Moi, je fais partie des gens qui aiment les changements de titre en weekly, quoi. Ce n'est pas fréquent. C'est pas que c'est rare, mais ça n'est pas fréquent. Et moi, je trouve que c'est bien d'avoir des feel-good moments, tu vois, de temps en temps en weekly. Et pour le coup, dans ce row, et ben voilà, un plein feel-good moment comme je les aime.
Ouais, non, c'est là, t'as raison. Les changements de titre, il faut pas les bouder en semaine. Ben voilà, ça s'est produit. Donc ouais, effectivement, on enchaîne là. Le show commence bien.
Yes, we want the smoke.
Mais c'est là où tout ça bascule. C'est là où ça bascule pour Chris.
Ce
qui est un autre match de championnat qui a suivi. Alors déjà, perso, je trouve ça complètement débile ces matchs de championnat 24/7. Parce que d'un côté, on a ces matchs très officiels qui, en fait, n'ont rien à voir avec le concept même de 24/7. Et à l'inverse, on n'a plus toutes ces séquences marrantes de comédie qu'on avait au début, hein, avec notamment R-Truth, qui était un formidable leader comique backstage. Là, on se retrouve avec juste une énième ceinture un petit peu. Vraiment, c'est la ceinture des jobbers, quoi. le Roll-Up Championship, comme tu l'appelles. Ouais. Mais là, dorénavant, bah, pour mettre over le champion, on va faire appel à... On va faire appel à Ricochet. C'est-à-dire que Riddick Moss, hein, que personne ne connaît, et qui est donc notre champion 24-7, a disposé de Ricochet dans un match qui, lui, était un match encore plus long, puisqu'il a duré 8 minutes 30, donc plus long que le match tag team. C'était compliqué. Grosso modo, Ricochet, il n'a pas vraiment vu la lumière. Voilà, une victoire clean de Riddick Moss, voilà, l'ancien footballeur universitaire qui a montré que c'était lui le gros costaud. Et la chute à l'arrière du peloton, là, pour Ricochet.
Ah ouais, chute à l'arrière.
Ah, c'est la voiture de balai.
Et en plus, moi qui l'appelle le Roll Championship, bah, évidemment, ça s'est fini sur un neck breaker et Riddick Moss gagne clean. Imagine, j'étais au bord de l'AVC, quoi.
C'était le cauchemar, le pire cauchemar.
Ah non, mais là, c'était mon cauchemar total, quoi, absolu, des trucs, voilà, je me réveille suant la nuit, tu vois, à cause de trucs comme ça, quoi, hein, après, derrière. Hein. Ça me fait trop de mal, moi, ce genre de truc. Donc, le mec, il est passé d'un title shot face à la bête ultime de la WWE, face au boss final. Le lundi qui suit, il affronte Riddick ou Moss. Il perd clean pour le 24-7. Non, j'étais plus là. Et alors bon, tous les reports aux États-Unis disent que de toute façon, c'est entièrement 5 étoiles de Ricochet par Vince. Donc voilà, Ricky la belle vie se transforme en Ricky la déprime. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle pour tonton Chris, hein. Je vous dis clairement.
On nous a montré un Ricochet un petit peu énervé ou abattu. Est-ce que, alors je vais faire l'avocat du diable, est-ce que on peut espérer, ou en tout cas envisager, d'avoir une espèce de storyline où, après s'être fait complètement détruire par Brock Lesnar, Ricochet, grosso modo, il a mal vécu ce match en Arabie Saoudite, et il va, grosso modo, se bouffer une grosse losing streak, et peut-être avoir un petit angle pour Ricochet, quoi, qui va devoir un petit peu... se ressaisir pour revenir plus fort en 2023.
Ah ouais, voilà. En plus, là tu sais que tu viens de faire jouir Giscal. Là. Donc, là, Giscal, s'il te plaît, va chercher des mouchoirs. Merci. Du coup, ouais, bah ouais, j'ai presque envie de dire que t'as raison. En plus, alors là, double jouissance pour Giscal. Donc, non, mais là, je suis très inquiet. Je suis très, très inquiet. Un enterrement first class. Là, j'étais totalement hébété. Je ne croyais pas, j'en croyais pas mes yeux. Je dis, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Ils sont en train de fracasser mon petit cœur, là. Donc, est-ce qu'il va se lancer sur une grande losing streak, comme tu dis, ça va à voir pour la suite. Mais là vraiment, je suis KO. Quoi. Je suis KO.
Pense qu'il n'y aurait plus que ça. Hein.
Je signale quand même les chants énormes du public, parce que je ne l'ai pas dit au début, mais j'ai trouvé le public de New York énormissime.
Et
les chants Who Are You pendant tout le match contre Ricochet, c'est le seul truc qui m'a mis un peu de baume au cœur durant cette parodie de catch.
Alors, si c'était Giscal, il te dirait que les chants Who Are You étaient effectivement à destination de Ricochet.
Qui
es-tu, Ricochet? On ne te reconnaît plus. Voilà, c'était le gros passage à vide, le passage difficile pour Chris.
Ouais, mais paradoxalement, plein d'émotions. J'ai pas trouvé ça mauvais. C'est bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un truc qui m'a mis plein d'émotions. Et je me suis dit, bah putain, ils ont réussi leur coup avec moi en tant que fan de Ricky là. Des millions de fans de Ricky dans le monde là qui se sont dit, ah ouais, non mais non, ça va pas se passer comme ça. Ça peut plus se passer comme ça.
Et si on est optimiste et voyons quel sort est réservé à Ricochet pour les semaines qui suivent.
Voilà.
Peut-être qu'il aura un angle. Peut-être qu'il tant qu'il apparaît à la télé, c'est déjà pas mal. Alors un autre qui a vécu une défaite aussi finalement assez impactante, puisqu'il était sur une on parlait de losing streak, il y en a un qui était sur une winning streak, Aleister Black. Black a eu 3 matchs ce soir contre Karl Anderson, Luke Gallows et AJ Styles. Pourquoi? Parce que AJ Styles est déjà il n'est pas content. Il nous explique. Undertaker lui a chourave son joli trophée en Arabie Saoudite. 2, il se bouffe une leçon de vie par Mark Wahlberg, qui a fait une vidéo en lui donnant quelques conseils, à savoir que le conseil, c'est quand l'Undertaker en a après toi, va-t'en, sauve-toi, run away.
Il va pas.
Walk
va.
Away.
Ouais.
Wahlberg away. Il n'est pas content. Et il essaie de dire à Mark Wahlberg, occupe-toi de tes affaires. Il espère même que le Taker va regarder ce soir ce qui va se passer. Mais c'est une légende du passé Undertaker, que le spotlight, il est pour lui, il est pour AJ Styles. Aleister Black donc débarque pour un match officiellement avec AJ Styles à ce moment-là, sauf que ce bon vieux AJ fait « Non, dans mon contrat, est stipulé à l'alinéa 24B que pour avoir l'honneur et le privilège de m'affronter, tu dois battre le motherfucker Karl Anderson. »
Il nous sort le 49-3. AJ Styles est un fan du 49-3. C'est un scandale.
Voilà,
c'est
on s'y pour qui il vote.
Cet homme est un heel, c'est sûr.
J'imagine trop la faction gouvernementale, tu sais. La faction En Marche avec AJ Styles.
La 49-3 Nation.
Ah oui, t'as les 360, les 640, les machins inversés dans tous les sens. Mais n'oubliez jamais la 49-3 Nation. Toujours là, pour imposer. Pour imposer.
Imposer sa loi.
Karl Anderson, il se fait blackmasser. AJ Styles fait, non, attendez. Tu dois d'abord battre Luke Gallows avant d'avoir l'honneur d'affronter AJ Styles. Luke Gallows, il se bouffe genre une quinzaine de coups de pied dans la tronche. Ce qui va l'agacer, et Luke Gallows, quand il est agacé, il est disqualifié, parce qu'il tabasse Aleister Black trop longtemps dans le coin du ring. Disqualification, mais du coup, AJ Styles en profite après que les Good Brothers aient placé le Magic Killer pour disposer très rapidement, en plaçant un phénoménal forearm et, petite provocation, en tirant la langue, en faisant la pause de l'Undertaker pour le tomber. Victoire d'AJ Styles, donc, et première défaite d'Aleister Black dans le main roster. Et surtout, AJ Styles qui provoque Undertaker. On vient là de nous officialiser un match pour WrestleMania.
Voilà.
Mais entre-temps, il y aura un Black AJ Styles à la chambre d'élimination dans un no disqualification.
Ouais. Tout un bon segment là, avec des bonnes annonces. Enfin, ouais, mais du début à la fin, encore une fois, moi, j'ai été comblé, quoi. J'ai trouvé ça très bon, les deux victoires avec la DQ, avec le beatdown de Luke Gallows, sur Aleister Black en deuxième position, là. Et puis ce méga taunt de AJ Styles avec la position référentielle du Taker. Franchement, moi, j'ai trouvé ça très bon. Alors effectivement, ça fait une défaite pour Aleister Black, mais bon, il n'en sort pas du tout décrédibilisé. Au contraire, il se tape un handicap match en 3 contre 1. Je pense que là, il a eu une belle exposition. Quasiment, j'ai presque envie de dire une des plus belles expositions qu'il ait eu depuis le début. Quoi.
Donc, ouais, j'ai beaucoup aimé sa séquence avec Luke Gallows, par exemple, toi, où vraiment il a enchaîné, quoi.
Ben ouais, carrément, non, c'était très bon, quoi. Et puis voilà, perdre face à un tel monstre sacré qu'est AJ Styles, quoi, n'en pas douter. C'est que du bénéf pour Aleister. Donc tu vois, je suis très content de l'avoir vu dans cet angle-là. Des bons matchs, un bon enchaînement, une bonne fin, enfin bref, tout était réuni là-dedans. Moi, ça m'a bien plu.
Ouais, c'était effectivement peut-être un petit peu long pour le public de Brooklyn, mais c'était une belle séquence. C'était une belle séquence, quoi, pour nous booker comme une grosse affiche pour Aleister Black qui, enfin, après un an être passé dans le main roster, se retrouve à devoir échanger, affronter un mec d'un autre calibre, quoi, que tous les précédents mecs qu'il a rencontrés jusque-là. Donc c'est une belle affiche là pour Elimination Chamber qui nous attend en plus avec une grosse stipule à nos disqualifications. Ça promet, je suis pas sûr que. Enfin, AJ Styles, ça m'intrigue. Je me souviens pas c'était quoi s'il avait déjà fait un match no DQ, certainement, peut-être dans sa rivalité avec Samoa Joe, mais en tout cas, peut-être, c'est. Je suis plutôt impatient de voir ce match. Division féminine, si tu veux bien, on nous book aussi. C'est pareil, Elimination Chamber arrive ce dimanche. Je sais que ça fait halluciner pas mal de monde sur le Discord. Là, on est tous là à se dire, mais attends, c'est déjà dimanche. Oui, c'est dimanche. Dimanche, c'est bientôt. Et du coup, on a Liv Morgan qui affronte Ruby Riott avec en arbitre spécial Sarah Logan. Écoute, c'est de la low-card. On pourra toujours discuter du casting de la chambre d'élimination côté féminin, mais au moins, on a essayé de créer un angle pour ajouter un petit peu de storyline dans cette, dans ce match hein, assez phare qui arrive. Ruby Riott versus Liv Morgan. Au début, Sarah Morgan est un arbitre assez impartial, mais elle, à un moment donné, je crois, elle se prend un coup de la part de Ruby Riott. Hein. Ça se prend un petit peu, ça se prend la tête. Sarah Logan va faire un compte lent sur une tentative de tombée de Ruby Riott. Et après, elle va faire un compte rapide sur un tombé de Liv Morgan, victoire de Liv Morgan. Et tout le monde finit par se mettre sur la tronche pour nous booker que tout est possible dans cette chambre d'élimination. Et ses filles se détestent tellement. Oh là là.
Ouais, ouais, ouais. Le Riott Squad a explosé en vol, quoi. Alors écoute, c'était pas Inric, c'était pas fou hein, ce match, mais par contre j'ai bien aimé ce principe d'avoir mis Sarah Logan en arbitre, de créer un peu toute cette tension entre trois filles qui ont été ensemble pendant des mois et des mois et des mois. Ça nous tease pas trop mal, je trouve, pour l'Elimination Chamber. Ça va peut-être être la guerre, mais aussi ça va être la guerre entre les trois, mais peut-être aussi que ça sent l'alliance de retour, tu vois, tout à coup dans la chambre. Tiens, et si on redevenait copine un petit peu quand même? Parce que ça peut être bien utile d'être en équipe dans la chambre.
Bah, donc, ouais.
Vous en savez quelque chose, peuple de catch-up, que c'est bien utile dans la chambre.
Hein, d'être au moins trois dans une chambre.
Voilà, hein, à trois minimum déjà, hein, c'est un minimum syndical. Alors à six, je vous dis même pas, quoi. Donc, voilà, ouais, on est perdu. Mais du coup, c'était pas mal. J'ai été plutôt intéressé. Et on verra, on va voir ce que ça va donner dimanche ce match féminin.
C'est plutôt bien d'accorder, voilà, c'est de la low card, mais au moins on accorde 5-10 minutes où on essaie de construire un angle pour trois jobbeuses, trois low cardeuses, on va dire, qui seront au programme dimanche. Donc on n'oublie personne sur le bord de la route.
Voilà, c'est très bien. Une bonne gestion des RH.
On reste dans la division féminine. Bonne gestion des RH aussi, puisque normalement c'était Asuka hein, qui avait un match contre Shayna Baszler, mais elle est blessée.
Et ouais,
elle est blessée. Elle a le bras dans le plâtre, ou en tout cas elle a des bandages. Peut-être pas dans le plâtre, mais elle a des bandages. Je me souviens même plus qu'est-ce qui lui est arrivé à Asuka.
Ouais, je sais pas. Je crois que c'était lié au match de la semaine passée, quoi, je crois, ou pendant la signature du contrat. Je sais plus. J'ai un doute sur sa blessure.
Bon, elle est blessée, du coup, bah, elle envoie Kairi Sane se faire bouffer par Shayna Baszler.
Mais pourtant, elle est au taquet, Kairi Sane.
Ah ouais, dans une petite promo, là, elles étaient bien énervées toutes les deux, à hurler en japonais et à dire qu'elles vont bouffer Shayna Baszler. Elles se connaissent bien, hein, ces filles-là, quand même. Hein. Faut pas oublier qu'elles se sont toutes croisées. Attends, est-ce que Asuka et Shayna Baszler, non, elles se sont pas croisées, hein. Asuka est partie avant que Baszler arrive. Ouais, je crois qu'elle est arrivée juste après. En tout cas, Kairi Sane est une des deux seules à avoir battu Baszler, hein. Donc, elle avait interrompu son règne. Je trouvais d'ailleurs que ça avait été une bêtise à l'époque, mais en tout cas, elle avait son numéro, comme on dit. On a eu un match de presque un quart d'heure. Où Baszler a montré toute sa violence et Kairi Sane un petit peu toute sa folie. Pendant le match, Becky Lynch est arrivée, fout un petit peu le dawa, elle était aux commentaires, elle a piqué la couronne de Lawler, j'imagine, parce qu'elle s'est retrouvée avec une couronne à un moment donné sur la tête. Elle est en mode très overconfident, comme on dit, hein, beaucoup de confiance en elle. Ça ne déconcentre pas Baszler plus que ça, puisque après avoir contré le Insane Elbow, elle étrangle Kairi Sane au point que la japonaise est obligée d'abandonner. Un bon petit showcase là pour Shayna à l'approche de la chambre d'élimination. Est-ce qu'elle va éliminer les cinq opposantes en les étranglant toutes l'une après l'autre? Ou en même temps, les cinq. Elle étrangle les cinq en même temps et elle élimine les cinq en même temps.
Le massacre. Ça te passe où, Elimination Chamber?
Ça se passe juste en bas de chez toi. J'en sais
rien. C'est vrai? Oh putain, trop bien, ça va être cool. Pas besoin de prendre la voiture pour y aller au show? Ah, ça, c'est une bonne nouvelle, voilà. Voilà. J'aime aller à un show de catch de manière écologique. Ça, c'est très bien.
Voilà, pas d'empreinte carbone très faible.
Écoute, j'ai trouvé que c'était un très bon match. J'ai bien adhéré. J'ai trouvé qu'Eriza est une surexcitée. Quand elle est dans ces dispositions-là, j'aime beaucoup quoi, l'interaction qu'elle a avec le public.
Ouais.
Donc ça m'a bien plu. Moi, après, ce qui me pose question, c'est que Shayna Baszler, elle est présentée, mais tellement forte que je pense que 99% des parieurs là vont parier sur Shayna Baszler pour l'Elimination Chamber.
Ah oui, c'est une minuscule cote. Hein. Je ne suis pas sûr que tu gagnes quoi que ce soit à parier sur Baszler. Hein.
Il doit y avoir un pauvre pourcent qui doit être réservé à Asuka. Et après, c'est le reste du monde est éparpillé façon Pulse. Quoi. C'est ça. C'est le seul truc un petit peu, tu vois, qui me fait un petit peu queener, c'est que Shayna Baszler est vraiment présentée trop, trop forte. Bon, en même temps, comme on se l'est dit à SmackDown, ils nous bookent tout ça en 2-2 hein, parce que Super Showdown c'était jeudi dernier et bam dimanche on enchaîne avec Elimination Chamber, donc là il fallait terminer le booking express pour Elimination Chamber, donc bon écoute voilà c'est comme ça, il s'avère que bah, voilà, Shayna elle est archi favorite quoi.
Ouais effectivement c'est vrai que ça écorche un petit peu, ça écorne un petit peu la chambre d'élimination sur le résultat, parce que même t'imagines, enfin il n'y a même pas, genre, il n'y a aucun candidat valide à part elle, quoi. Donc, c'est vrai que tu peux même pas dire, même une surprise serait franchement, enfin, pas bon pour WrestleMania, s'ils veulent justement, visiblement, d'après Ringside, qui notre insider en termes de chiffres, il y a un peu de galère à remplir ce pay-per-view. Là, il n'y a pas d'autre choix que de mettre Baszler versus Becky Lynch. Donc, voilà, on espère juste avoir une chambre d'élimination assez dingue, quoi.
Ouais,
voilà.
Voilà.
Donc, on nous présente Baszler, voilà, comme vraiment une machine à étranglement. Ce qui va peut-être, voilà, qui va être l'attraction, en fait, de cette chambre d'élimination, c'est comment elle va détruire les cinq autres. C'est pas tant le résultat que la manière qui va compter dans cette chambre d'élimination. Ce qui est assez paradoxal. Ouais. C'est assez paradoxal. Ouais. Souvent, on a envie de savoir qui va sortir gagnant, un peu comme le Rumble, toi. Mais en tout cas, le boulot est fait du côté des filles pour nous montrer
que
Baszler est méchante.
Je sais pas ce que t'en penses, mais Shayna Baszler, elle a presque un booking à la Brock Lesnar. Elle a presque un booking de boss final et exactement ce que tu viens de dire là en disant que bah voilà quoi, que finalement ce qu'on attend c'est pas de savoir si elle va gagner, mais c'est de savoir comment elle va gagner, comment elle va destroy tout le monde, et finalement c'est ce qu'on attend de Lesnar à chaque fois quoi.
Ouais, c'est vrai que là ce côté-là de fille imbattable quoi déjà, enfin de monstre qu'on peut comparer effectivement avec du Brock Lesnar où on connaît l'issue à l'avance mais on veut juste savoir comment ça va se passer. Ça peut bien se passer si tu es Daniel Bryan, mais ça peut aussi mal se passer si tu es Ricochet.
Ah oui, ça c'est sûr.
J'ai de remuer le couteau, excuse-moi. allez. Ça, quelque chose qui a dû te faire plaisir. En tout cas, si tu ne me dis pas que ça t'a fait plaisir, c'est que je ne comprends plus, Chris. On a eu un match de la Lucha Familia.
Ah ouais.
Mysterio et Carillo étaient opposés ce soir à Andrade, qui faisait son retour sur le sol américain à Stamford, en tout cas entre les cordes, sur un sol américain. Champion, toujours champion US, hein, il a gardé sa ceinture. Et Angel Garza. Dans un match de 20 minutes, du lucha, des lucha things, des pantalons qui volent, du comeback, du Carillo qui est adoubé par Rey Mysterio, Andrade qui passe des souplesses à la Eddie Guerrero, enfin tout le monde fait des hommages à Eddie Guerrero de toute façon dans ce match. Rey Mysterio avait un super t-shirt, je sais pas si t'as vu, il avait un super t-shirt à Eddie Guerrero. Merchandising, Eddie Guerrero, toujours top 10, hein, vendeur de t-shirts, même 15 ans après sa mort.
Ouais.
Et surtout un 619, un double 619 qui était pas mal là où t'avais.
Mais oui. Mais
oui. Ça, Andrade qui était empilé là et qui se sont fait 619. Ça, c'était plutôt cool. On a eu du Destroyer, on a eu. Vous connaissez un petit peu, vous imaginez très bien tout ce qu'on a eu avec ces quatre. Luchador, là. Et surtout à la fin, c'est Carillo qui chope la victoire sur Andrade avec son moonsault. Victoire des Babyface, 20 minutes, un match solide. Moi, j'aimerais bien un petit Fatal 4-Way là, pour le titre, entre les quatre.
Ah ouais, mais carrément. Ah non mais là c'était moi c'était je buvais du petit lait hein, franchement j'étais au bord de déboucher le champagne little bit of bubbly à la fin du match quoi. Ah non mais moi ah là, franchement je baignais dans mon jus quoi. C'était vraiment génial. Toutes les interactions tout Andrade a été énorme. Andrade avec son passage je tourne entre les cordes, il a passé son double knee que je trouve monstrueux. Tout le double 619 tout le passage voilà entre Carrillo et Mysterio avec des tags et blind tag enfin voilà enfin un clinique de lucha libre ce match. C'était un clinique de lucha libre. Et quand même c'est assez rare pour le signaler quoi. J'ai rarement vu ça hein, depuis le temps que je suis la WWE. J'ai rarement vu autant de la lucha libre s'exprimer. Je veux dire la lucha house party, il faut l'oublier quoi. C'est
pour les enfants ça.
Ouais, non, mais ça, c'est une espèce de. C'est une espèce de friandise qu'on nous donne avec ces trois gars-là, quoi, qui sont pas mauvais pour autant dans le ring, hein, mais là, ce qu'on a vu avec ces quatre-là, la Garza, Andrade, tout ça, là, on a vu de la deuxième, de la troisième génération dans le ring.
Ouais.
Mais c'était trop bon, hein. Franchement, moi, j'ai apprécié à sa juste valeur. Alors, je sais hein, que la lucha libre, c'est un style qui plaît, qui s'y est pas à tout le monde. Mais bon, quand on est comme moi fan de ça, et ben très franchement, je me suis régalé quoi. Dans un RAW, dans le show vaisseau amiral de la WWE, avoir droit à un truc comme ça. Et puis bah, comme tu l'as dit, pour terminer là-dessus, hein, oui, je vote oui à un Fatal 4-Way à WrestleMania pour le titre ah ouais. US. Voilà, ça, c'est, putain, mais là, mais ah là 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 là, ce serait génial, ce serait génial.
Ouais, ouais, moi aussi, nous l'appelons nos vœux.
On pourrait presque créer une ceinture latino. À la WWE, et moi je l'ai déjà proposé dans le Discord, mais moi j'envisageais même de créer un clan, une Nuestra Familia, voilà, avec tous les catcheurs latinos qui à l'heure actuelle à la WWE, il y aurait moyen de faire un truc hyper sympa, quoi, un angle d'invasion hyper sympa avec les latinos, ça serait un bon coup de pied au cul à Trump aussi au passage. Et franchement, moi ça me plairait bien, quoi. Mais en tout cas, moi en ce moment, ils nous donnent de ça tous les lundis, et tous les lundis, je suis content.
Ouais, non, il faut y aller, là ça prend plutôt bien, en plus tout ça est sous la bienveillance de Rey Mysterio, donc toutes les étoiles sont alignées pour nous proposer un super spectacle chaque semaine, et effectivement, hein, ces mecs-là, ils continuent comme ça, ils mériteraient largement une belle place là sur la carte à WrestleMania, le titre gardé au chaud sur Andrade jusqu'à WrestleMania, et voilà, on adoue un petit peu tous ces types-là en même temps, plutôt que d'à chaque fois essayer de trouver le nouveau Eddie Guerrero. Bon, on en trouve plein de petits Eddie Guerrero, un peu partout.
Ouais, ouais. Ouais, puis quel moment pour Ray, quoi. Je veux dire, Ray, là, si cette année, il nous fait un WrestleMania pour le titre US, avec la carrière de fou furieux qu'il a derrière lui, comme on sait qu'il est proche de la fin, Ray, quoi, bah, ça pourrait être une belle exposition.
Ouais. Avant d'arriver à cette incroyable
un ladder match, excuse-moi, un ladder match.
En plus, allez.
C'est... Ah ouais. Hein. Ah ouais, bah ouais. Hein. Là, il nous faut un Fatal 4-Way ladder match pour le US Championship.
Ah ouais.
Period.
Ah ouais, t'as raison, c'est pas mal. Ah ouais, en plus avec Zelina Vega qui serait impliquée.
Mais et, oui.
Pourquoi pas le fils de voilà Dominique peut-être et. Ouais. Zelina Vega qui place une Hurricane Rana sur Dominique et Dominique qui fait un 619 sur Zelina Vega, ça pourrait être sympa. Puisque visiblement, on a droit de frapper les femmes maintenant à WWE, vu ce qui s'est passé.
Ouais.
Ouais. Bon, avant ça, t'as vu, finalement, c'était une grosse araignée en plastique
motorisée. Oh là 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 là, là. Hein? Bon, alors là, ouais. Ouais, alors ça, c'était cheap.
Dans la cage de Rowan.
Ouais, quelle voilà. Déception. Alors là, franchement, ça, alors là, moi, j'ai pas compris dans un segment Out of Nowhere avec No Way Rosé quand même.
Ah, quand il a montré son araignée, je fais No Way.
Ah ouais, No Way, ouais. Non, mais il n'y avait pas moyen, c'est clair. Il n'y avait pas moyen, quoi. Moi, j'espérais tellement un serpent. Et au final, on nous sort quoi? On nous sort une araignée en peluche toute cheap, là, toute pérave. Ah, bah alors là, franchement, et tout ça pour ça, hein, parce que Eric Rowan, ça fait des semaines et des semaines qu'il vient avec sa cage, qu'on a peur, qu'on tremble. Et c'était tout pourri. C'était tout pourri.
Ouais, voilà. C'est pas bien d'aller voler les jouets de Bray Wyatt à la Firefly Funhouse.
Ah ouais, voilà.
Il faut aller le rendre maintenant, le jouet.
Eric Rowan, sponsorisé par Pickwick, les amis.
Bon, allez, on va aux choses sérieuses. J'ai rien oublié avant la séquence finale.
Bon. C'est au taquet.
Une séquence finale pleine d'émotions. Moi, je dois t'avouer que j'étais sur le cul. Quoi, j'y repense encore. Là, c'est assez incroyable ce qu'ils nous ont monté. Beth Phoenix est là pour nous donner des nouvelles de son mari. Edge, elle est inquiète, évidemment, mais elle est rapidement, très rapidement interrompue par Randy Orton, qui lui tend la main, qui veut lui faire la bise. Mais Beth Phoenix ne veut pas. Elle l'insulte même, lui dit que c'est un sacré son of a bitch.
Ouais.
Elle a besoin de son mari, ses enfants ont besoin de leur papa. C'est une maman, hein, et c'est dur quoi, pour elle. Orton, en mode un peu vipère, comme ça, il tourne autour d'elle, il s'assied sur le turnbuckle, et puis il redescend. Puis il finit par lui dire, bon, écoute, je te donne une explication. Et là, il nous raconte une anecdote. Parce que tout a commencé en 1999. Il y a plus de 20 ans quand même. Il était petit, c'était un petit Randy, il s'appelait Randall à l'époque. Il était avec son papa, hein, Cowboy Orton, Cowboy Bob Orton. Il avait 19 ans, il voulait se lancer dans le business. Il était petit-fils de catcheur, c'était dans son sang, mais il n'avait pas encore eu le déclic. À ce moment-là, il était juste un fan, mais voilà, ça commençait à prendre, quoi. Son père l'emmène voir des shows. Là, ils sont backstage. Et Edge arrive. Et Edge fait preuve de respect envers son paternel. Une vraie preuve sincère de respect. Et Randy, ça l'a touché de voir quelqu'un apporter autant de respect à son père. Ça lui a ouvert les yeux. Et donc, le papa introduit. Il dit, ben voilà, je te présente mon fiston. Et Edge, imaginez la scène. Edge s'abaisse comme ça. Il regarde. Il dit, bah écoute, bonne chance mon petit gars, et qui sait, peut-être un jour on travaillera ensemble. Et ça l'a motivé Orton. Il s'est dit, ce mec, il respecte mon père, il a vu quelque chose en moi, et ça l'a motivé, quoi. Ça a vraiment été le déclic pour lui. L'histoire continue, ils sont affrontés, hein, à tour de rôle, à travers le monde, ils ont volé le show, et ils ont fini par se mettre ensemble aussi, avec cette fameuse team célèbre, hein, la Rated RKO. Et puis Orton, il a fait des mauvais choix. D'ailleurs, je vous invite à regarder notamment ce formidable épisode de cette formidable série documentaire sur le network dédié à la Ruthless Aggression Era. Il y a tout un pan sur tout un épisode sur la Evolution, hein, la team Evolution, et du coup Randy Orton. Donc voilà, il se laissait aller et Edge l'a sauvé, hein. Il lui dit, écoute mec, y a plus que ça dans la vie, y a pas que le catch, y a aussi, y a la famille, quoi. Et Orton, ça l'a relancé. Orton, il a construit une famille, il a aidé ses enfants, il allait chercher ses enfants à l'école, il leur apportait le goûter, il faisait des RKO dans la piscine avec ses gosses. Et Edge l'a sauvé, tout simplement. Et quand Edge est revenu, quand Edge est revenu au Rumble, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il craque totalement, il est foutu, je peux pas laisser faire ça. Je les aime trop. J'aime trop Edge, j'aime trop toi, Beth Phoenix, je t'aime, j'aime tes filles. Il parle beaucoup des enfants, je vous aime, et c'est pour ça que j'ai pas pu m'en empêcher. C'est un putain de junkie, ce Edge. Il peut pas s'en empêcher. Quand j'ai vu la foule complètement retourner à son retour, je me suis dit, il va retomber dedans. Et je peux pas laisser un junkie retomber dedans, c'est mal. On tend pas un verre de picon à un alcoolique.
Orton, le SAMU social.
Ben oui. Je vois bien faire des maraudes la nuit pour sauver les junkies.
Il distribue des soupes chaudes et puis après il leur met des RKO.
Et du coup, c'est pour ça qu'il l'a fait. Beth Phoenix est en pleurs. Et là, Orton a ce mot très dur, alors qu'il a réussi à retourner la foule dans tous les sens. Un coup, on l'applaudit, un coup, on le hue. Il lui dit, Beth, en fait, tout ça, c'est ta faute. Moi, j'aime plus tes enfants que toi. J'aime plus Edge que toi. C'est toi qui l'as laissé revenir, c'est ta faute. Beth Phoenix lui met une claque. Et Orton lui place un RKO.
Tout ça. On rigole, mais ça doit être très, très désagréable.
Et voilà, et part quoi, et c'est horrible à ce moment-là ce qui se passe, et à tout le monde arrive, tous les vieux poteaux, les edgeheads qui sont là, Natalia est là, tout le monde est autour, et tout le monde est effaré, et il y a même Byron Saxton, le mec qui pète jamais plus haut que son cul, qui dit, C'est quand même un sacré son of a bitch, Orton. Tout le monde est là, genre. Et ah qu'est-ce qui vient de se passer? Et c'est comme ça qu'on finit chaud. On a eu là, je crois, tout simplement une grande leçon de catch, d'histoire, de peut-être ce que peut nous proposer de mieux la WWE dès qu'on touche des grandes histoires et des grands catcheurs. C'était assez incroyable ce qu'on a eu là.
Incroyable, ouais. Byron Saxton, il a craqué son slip, quoi.
Ah
la
ouais.
Tête de Jerry Lawler à la tête de... T'as Jerry Lawler, mais j'aimerais trop le fracasser, j'aimerais trop lui mettre une powerbomb. Mais bon, passons, ça c'est un fantasme que j'ai...
Qui restera un fantasme.
Voilà, que je n'assouvirai jamais. Mais Byron Saxton qui craque complètement son slip, une promo complètement dingue de Orton. Le coup de « je vous aime, je veux vous préserver, et pour ça, je vais vous mettre un RKO dans la gueule, quoi, je vais vous défoncer, quoi !» Ah non, mais c'était apocalyptique, c'était incroyable, c'était... Non, Orton, là, franchement, moi, je suis pas tout le temps un fan énorme de Orton. Son in-ring, en particulier, quand même, me laisse parfois un peu dubitatif. Je le trouve si lent, si méthodique. Mais par contre, au micro, quand même, quoi. Je dois reconnaître qu'il est un peu comme... On peut le cocher dans la case avec John Cena, hein, qu'on a dit sur vendredi dernier à SmackDown. Mais voilà, il fait partie des gars, quoi. Quand il chope le mic, voilà, quoi. Là, ça rigole plus. Tout le monde écoute. Et le gars, dans la même promo, il est heel. Il est supporté par le public. Ensuite, le public chante son finisher. Il est à nouveau hué par le public. Il y a une reprise plus ou moins face. Et finalement, il termine comme... Il utile salopard qui met un RKO à une femme désarmée. Ah non, mais là, franchement, moi, je dis non, je t'ai plus, quoi. C'est voilà. Voilà, tout un taf de promo au top, quoi. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux à ça, quoi? Le mec nous résume 20 piges d'histoire et termine avec une image aussi forte que ça, avec la Beth Phoenix complètement KO et, comme tu l'as dit, l'arrivée de tous les sidekicks de Edge. Voilà les amis, comment on build un Randy Orton versus Edge à WrestleMania qui va avoir une hype de fou. Et c'est parfait. Le job is done.
Ah ouais, moi j'étais captivé. Beth Phoenix aussi, je tire mon chapeau parce qu'il y avait énormément d'émotions. Parce que tout ça était vrai. It's still real to me. C'était vraiment, quand tu mélanges les vraies histoires, le vrai passé, ils ont quand même réussi à raccrocher tout ça. Hein. Franchement, c'est un exercice assez incroyable et ils ont une telle matière, une telle histoire à WWE que quand ils sortent les doigts du cul, que tout est aligné et je sais qu'il faut s'en taper des daubes pour réussir à arriver à ces moments-là.
Ouais.
Tu te dis, moi je suis prêt à me bouffer une araignée en plastique dans des cages, même si j'accepte, on se fout de ma gueule et c'est pas agréable, mais je suis prêt à me bouffer une vieille séquence avec Noé Rosé backstage qui découvre qu'en fait c'est une vieille araignée en plastique de Toys R Us. Si derrière, j'ai 15 minutes d'Orton qui me raconte sa petite histoire quand il était tout petit et pourquoi, en fait, c'est à cause de Beth Phoenix que Edge est à l'hôpital et qu'il lui fout un tas de RKO en mode « je le fais pour vous », quoi. Enfin, c'est genre le pire méchant. C'est vraiment incroyable d'arriver à une telle histoire. C'est probablement la meilleure histoire qu'on a à l'heure actuelle en direction de WrestleMania. Franchement, ouais. Il y a beaucoup d'émotions. Écoute, on en a parlé au début, c'est l'heure du mot de la fin. Chris était super excité quand on a commencé cet épisode, il y a eu des hauts, il y a eu des bas aussi un petit peu pour Chris. Si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note s'il te plaît.
Ouais, alors je vais faire comme j'ai fait pour Super Showdown, j'avais lu vos avis avant de donner le mien,
ouais.
Pour donner un peu déjà un ordre d'idée, donc du coup je vais vous lire vite fait, parce que surtout qu'en plus il a dû trop jouir pendant toute la review, donc je vais vous lire l'avis de Giscal, l'inénarrable Giscal. Alors le Giscal, il a donné son top à Randy Orton, and I quote, Randy Orton, masterclass, légende, une des meilleures promos de mémoire récente, angle magnifiquement développé, qui donne une envie de dingue de voir Edge revenir. De l'art. Oui, mesdames et messieurs, de l'art.
À la critique, quoi. Critique artistique.
Ah ouais, ouais. Attention, il a mis un top bis, alors évidemment un truc foiré, Il a mis un retour de Rick Wichett à la réalité. Flop, il a mis rien. Note, il a mis 4,25. Plaisir à tous les étages. McIntyre, c'était ouf. Orton, c'était ouf. Les Chicanos, c'était très cool encore. Street Profits, je kiffe. Black and Styles avec le tease, Taker, c'était cool. Les filles, même si on s'en fout, c'était tout à fait correct. Rien à jeter.
Voilà. Ah, c'est vrai, on dit comme ça, bon voilà, Bon, et toi alors, Chris?
Alors, ta-ta-ta! Eh ben, pour Chris, mon flop, il va aller à l'araignée Pickwick de Eric Rowan. Voilà, ouais. Ça c'est fait. Mon top, il y a eu plein de feel-good moments dans ce row. J'ai kiffé ce row quasiment de A à Z. Je pourrais le donner à Orton aussi comme Giscal. Parce que c'était vraiment, ces 15 minutes ont été vraiment, vraiment puissantes, quoi, vraiment powerful. Mais j'ai trouvé tout le opener de Drew McIntyre, Lesnar, de ouf, avec ce feel good moment qui a suivi derrière du Tag Team Championship. Donc je suis, me voilà bien, bien embêté pour donner un top. Mais je vais me faire un plaisir personnel et je vais donner mon top au Lucha Libre style match auquel on a eu droit. Et voilà, et en ayant un vœu pieux et en imaginant donc ce Fatal 4-Way Ladder Match pour le US Championship à WrestleMania, s'il vous plaît, la WWE, entendez-moi, entendez-nous, entendez la complainte du peuple de catch-up et donnez-nous ça à WrestleMania et on sera heureux. Voilà, ça sera mon top. Et ma note, ça va être, oh là là, ma note. Bah franchement, même le petit couac du jouet Pickwick de Eric Rowan ne va pas m'empêcher de mettre un 4,5 à ce row. Et merci au public de New York.
Ouais, merci à eux d'avoir contribué. Écoute, moi, c'est pareil. Je peux pas le donner à Orton, en fait. C'est compliqué. Je vais le donner à Orton. Cette séquence est juste incroyable. Ça, voilà, je viens juste d'en parler. Mon flop, je suis comme toi, il n'y a franchement pas grand-chose. Ouais, je vais le donner aussi à cette araignée, c'est complètement débile, quoi. C'est con, quoi. J'aurais pu faire un truc un peu mieux. Ma note, bah écoute, je suis comme toi, j'ai trouvé cet épisode assez incroyable après tout ce qu'on s'est bouffé en Arabie Saoudite. Je vais mettre également un 4,5. Ouais, parce que c'est quasiment un épisode parfait, franchement. Quand tu
regardes. Bah ouais, bang, 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 bang. S'il n'y avait pas eu Rowan, j'aurais été à 4,75.
Ouais, carrément. Bon, bah c'est comme ça que se termine cet épisode, mon bon Chris. Vous pouvez suivre Catch Up, votre émission qui résume et analyse tous les shows de la WWE en audio sur Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, PodCloud, j'en passe et des meilleurs. Également présent sur YouTube, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, une note, une étoile, un pouce en haut, en bas, mettez-nous voilà une petite review, ça nous aide un petit peu, ça nous motive, ça nous fait plaisir d'avoir vos retours.
Sonnez la cloche, sonnez la cloche.
Pour avoir les notifications évidemment, le Discord, le lien est dans la description. Je te remercie Chris pour ta présence.
Avec plaisir.
Et je vous donne rendez-vous très bientôt. D'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut.
Salut El Patron. Salut peuple de catcheurs. Oh my god, 9 sur 10 à Monday Nitro Catch-Up. Oh my god.